Et il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Nous avons tous constaté, y compris à notre petite échelle, combien les phénomènes météo sont plus violents, plus francs, plus intenses. Ces dernières années, nous avons tous appris ce qu'étaient les phénomènes cévenols. Nous avons tous le souvenir des 40 degrés, parfois plus, de l'été dernier. Et qui sait ce qui se passera cet été. Nous avons tous en tête aussi les images de gens piégés chez eux, récupérés par des barques de pompiers dans le meilleur des cas. Ces polémiques sur la soudaineté des phénomènes météo violents qu'on n'aurait pas su prévoir. Les images des prisonniers de la route, quand la neige tombe et recouvre une autoroute d'Île-de-France de 10 cm de poudre. Vent violent, crue, orage, canicule, neige, grand froid. C'est une petite révolution dans les prévisions météorologiques. Tous ces phénomènes dont on savait avant, 24 heures avant, quelle allait réellement être leur ampleur, eh bien tous ces phénomènes sont désormais prévisibles à 7 jours. Et 7 jours, ça change tout dans la prévention, le cas échéant, l'évacuation, dans l'information. Les prévisionnistes vont nous expliquer ce soir comment ils font ce que l'on sait faire désormais qu'on ignorait jusque-là. Mais tout cela permet d'anticiper, d'éviter peut-être des catastrophes humaines, d'observer, de comprendre mieux ce que nous réserve le climat de ces prochaines années. Cela permet aussi de nous forger une culture du risque. On en parle ensemble ce soir dans Le Téléphone Sonne. Et soyez les bienvenus.
Le Téléphone Sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier ce soir, c'est vous Yves. Bonsoir Yves et bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Yves.
Et voilà ma question. En fait, effectivement, donc nos météorologues ont des modèles qui sont de mieux en mieux, enfin très très perfectionnés. On a des satellites très très bien, donc on arrive à faire des bonnes prédictions. Mais j'ai l'impression que le réchauffement climatique perturbe ces modèles, parce que moi, mes observations, c'est qu'il y a des grosses erreurs parfois de prédiction de climat chez moi. Hein, je l'observe. Et donc, j'aurais bien aimé savoir quelles sont les difficultés introduites par le réchauffement climatique sur la modélisation au niveau des conditions limites ou des modèles.
Eh bien, merci beaucoup Yves pour votre question, pour y répondre ce soir et pour discuter avec nous jusqu'à 20h. Sébastien Léas, donc, est là et de retour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes évidemment prévisionniste à Météo France et Alix Romagnac est là également. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le président de Predict Service. L'un l'autre, Sébastien, pourquoi pas vous pour commencer. Est-ce que le réchauffement climatique vous a perturbé les modélisations, comme dit notre ami Yves?
Alors pas forcément, je pense que c'est plus une vue de l'esprit que le réchauffement climatique influence les prévisions. Mais si on prend par exemple ce qui s'est passé l'année dernière avec les fortes chaleurs, hein, le 46 degrés qu'on a observé en record national, qui battait quand même le record historique de plus de 2 degrés qui datait lui de 2003, finalement, il avait été quand même très bien anticipé, de manière assez précoce, finalement, par nos modèles numériques. Donc non, je pense vraiment que l'impression ne va pas avec la réalité de ce que nous, on vit au quotidien en tant que prévisionniste.
Et on va parler justement de ces fameux 7 jours, donc, Alix Romagnac. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la fiabilité. On les connaît, ces cartes météo qui changent de couleur en fonction de l'éventualité, la fiabilité des prévisions qui sont faites. Est-ce qu'on peut aujourd'hui assurer aux gens qu'il y a une précision, on va dire, qui n'existait pas il y a encore quelques années à peine?
Nous, ça fait des années qu'on est des utilisateurs au quotidien, en fait, de ces prévisions, bien de sûr. Ces observations. Mmh. Et en fait, on essaie de traduire à la fois les prévisions, les observations en recommandations, en consignes, justement, pour anticiper ces phénomènes extrêmes. Et nous, ce qu'on peut confirmer, c'est qu'en fait, il y a une évolution continue dans la précision, que ce soit dans la précision en termes de durée. Hein. C'est vrai que les modèles commencent à identifier les phénomènes extrêmes de plus en plus tôt, et y compris aussi dans la graduation et dans leur gravité. C'est-à-dire que Predict existe maintenant depuis près de 2006, et il n'y a pas sur le territoire national un événement extrême, qui soit inondation, tempête, grosse canicule, qui n'ait pas été identifié par les modèles en amont. Après, il y a toujours la relation entre cette précision, la précision de la localisation, et il faut mettre en place tout un processus justement de gestion des incertitudes qui subsistent.
Est-ce que c'est là qu'il faut être encore meilleur et qu'on fait des progrès, Sébastien Léas, sur l'extrême localisation? Parce que ce qu'on voit dans ces phénomènes météo de ces dernières années, mais je pense au phénomène Cévenol, je pense à ce qui peut provoquer donc des crues très importantes dans certains endroits, ce qu'on voit, c'est que c'est parfois micro-localisé. Est-ce que là-dessus, vous avez aujourd'hui des outils qui vous aident particulièrement ou pas?
Alors oui, on a des outils, on utilise beaucoup, alors on va beaucoup utiliser ce terme-là, hein, de modèles numériques, qui sont en fait, on a un supercalculateur qui est situé à Toulouse. D'ailleurs, on va changer notre nouveau supercalculateur qui est en train d'être installé, qui du coup, avec la crise sanitaire, a pris un petit peu de retard sur l'installation. Mais effectivement, si on revient un peu en arrière, même beaucoup en arrière, à la fin des années 70, où on avait à peu près le premier modèle numérique français, qui s'appelait Améthyste, qui avait une maille, c'est-à-dire on a découpé en fait en petits carrés, en petits cubes, l'atmosphère pour pouvoir l'étudier et prévoir son évolution. On avait une maille qui était, à la fin des années 70, de 250 km. Aujourd'hui, on a une maille qui est à 1,3 km, qui est du modèle français. Donc effectivement, c'est centré sur la France. C'est un modèle purement français, mais on a aussi une maille qui, elle, est un petit peu plus étendue, toujours avec le modèle français, plutôt sur l'Europe, avec 5 km. Donc effectivement, en voyant ça, on voit que des phénomènes qui peuvent être extrêmement localisés vont pouvoir être anticipés de manière beaucoup plus précoce que ce qu'on pouvait observer à l'avenir. Enfin, si on reprend le comparatif de ces mailles, on se retrouve avec 4 points finalement de prévision entre Paris et Strasbourg. Aujourd'hui, on en a presque une centaine.
Mais qu'est-ce qu'on sait faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait lire au fond, Sébastien, qu'on ne savait pas lire et qui peut nous donner cette assurance aujourd'hui de dire on est capable de prévoir un phénomène météo important à 7 jours sans grand risque de se tromper? Qu'est-ce qu'on sait lire aujourd'hui qu'on ne savait pas lire? Qu'est-ce qu'on a rajouté qui aujourd'hui est d'une aide extrêmement précieuse?
Alors, faut quand même prendre en considération que c'est pas forcément que notamment la nouvelle carte de vigilance et l'information qui va se passer au-delà de J4 jusqu'à J7, c'est vraiment une information sur un événement potentiellement dangereux qui peut se produire jusqu'à J7. C'est sûr que si on prend des exemples de tempêtes, par exemple, parce que c'est vraiment le dispositif va vraiment être adapté à ce type de d'événements particulièrement dangereux qu'on observera justement pendant l'automne et l'hiver prochain. En fait, ça va nous permettre de déjà prévenir en amont que potentiellement il peut se passer quelque chose, pas forcément de manière très localisée dans un premier temps, puisqu'il y a une dérive qui se fait au fil des échéances. Hein, évidemment, une tempête, si on prend les tempêtes Lothar et Martin qu'on a observées à la fin des années 90 en 99, effectivement, si aujourd'hui, admettons qu'on soit dans la situation d'une semaine avant, on va dire, bah, faites attention, il risque d'y avoir une tempête qui va arriver par l'Atlantique, ce qui est quand même assez large.
Oui.
Et au fur et à mesure des échéances, on va réduire justement ce champ des possibilités pour affranchir tel ou tel département.
Mais si typiquement, par exemple, pardonnez-moi Sébastien, typiquement, effectivement, c'est le bon exemple, Lothar et Martin, si on se reporte aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez pu dire? Est-ce que vous pouvez dire, attention, tel endroit en Charente-Maritime est l'endroit le plus dangereux demain ou dans 7 jours, d'ailleurs? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de dire ça par rapport à ce que vous disiez à l'époque de Lothar et Martin ou pas?
Alors, à l'époque de Lothar et Martin, la vigilance n'existait pas encore. C'est d'ailleurs, c'est quasiment un des éléments de naissance, finalement, de la vigilance, parce qu'il y avait aussi eu des inondations à l'automne qui avaient fortement touché l'Aude. Et du coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la chaîne de communication et d'information, on ne prévenait pas finalement suffisamment tôt. Il y avait des messages d'alerte qui existaient déjà au service public, notamment. Maintenant, effectivement, la population n'était pas forcément au courant de ce qui allait se produire et pouvait donc engendrer des impacts et des victimes beaucoup plus importantes. Donc la vigilance est née au début des années 2000 avec, effectivement, finalement, c'est un dispositif qui existe que depuis 20 ans. Donc il s'adapte, on a rajouté des paramètres au fur et à mesure des années. En 2004, on a rajouté, après la canicule de 2003, on a rajouté le dispositif pour justement les fortes chaleurs et les canicules, puis également le grand froid. On a rajouté des vagues submersion après l'épisode Xynthia en 2011. Donc effectivement, c'est un dispositif qui est récent, mais et qui nécessite d'être sans doute amélioré au fur et à mesure des années en fonction. Mais Mais effectivement, ça nous permet, nous, de prévenir la population qu'effectivement, il va y avoir des impacts. Alors si on reprend Lothar et Martin, on s'est rendu compte a posteriori que la moitié de la France aurait été concernée par une vigilance rouge sur du vent, ce qui est énorme. À titre d'exemple, Xynthia aurait concerné qu'une partie du centre-ouest.
Mmh. C'est ça qui vous intéresse, j'imagine, Alix Roumaniac. Moi, j'aimerais savoir maintenant qu'on a cette capacité donc à prévenir les grands événements, donc les événements les plus dangereux sur une période finalement qui vous laisse un laps de temps. Est-ce que ça veut dire que cette échelle de gravité nous a vraiment aidé à avoir une vraie culture du risque, ou est-ce qu'au contraire, à force de ces vigilances-là, à force d'en voir régulièrement, ça devient plus compliqué d'avoir cette culture du risque et d'éduquer les gens à avoir cette culture du risque?
Les deux facteurs, on peut les mesurer. Et en fait, on se rend compte, nous, depuis plus de 10 ans, quand même, qu'il y a une évolution au niveau du territoire français, d'augmentation. On travaille avec plus de 20 000, 25 000 communes. Et aujourd'hui, tous les maires ont mis en place des plans communaux de sauvegarde et préparent justement en amont toutes les actions à mettre en œuvre lorsqu'un événement arrive. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement qu'avec l'identification, comme l'a dit Sébastien, à 7 jours, puis des confirmations à 4 jours, et puis de plus en plus en prise de précision à 3 jours, à 2 jours, et puis après on passe à l'observation, ça nous permet d'envoyer des messages graduels et pas de faire du tout ou rien. Et donc du coup, il y a une adaptation progressive à ces gros événements, et ça permet effectivement d'avoir des attitudes qui sont plus anticipées et plus... On commence à mesurer, que ça soit bien sûr en termes de vie sauvée, ce qui est essentiel, mais aussi en diminution de sinistres. On travaille avec beaucoup de partenaires assureurs et on commence à observer que justement toutes ces actions d'anticipation permettent de faire baisser les conséquences de ces gros événements.
Mais est-ce qu'on est vraiment coopératif, nous, au fond? Est-ce qu'on a fini par prendre l'habitude des épisodes? Il y en a eu un certain nombre, notamment les crues inondations dans certains secteurs en France. On a vécu 2 très grosses canicules. On ne sait pas très bien ce qui va se passer encore cet été. Donc, est-ce qu'on a des réflexes aujourd'hui? Est-ce que nous les avons réellement acquis? Et peut-être aussi parce qu'on parle beaucoup en ce moment de ces phénomènes-là, parce qu'on parle aussi réchauffement climatique. Alors, je ne veux pas évidemment mélanger météo et climat, mais enfin, on est dans cette ambiance-là. Est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur, nous, y compris vous et moi, qu'on croit plus volontiers, qu'on anticipe plus volontiers à titre purement individuel?
Oui. Nous, on le mesure, on fait beaucoup de contacts, on fait beaucoup de rencontres, on accompagne dans des réunions publiques les mairies avec les citoyens, et on voit cette évolution. Et quand vous dites vous et nous, c'est aussi le monde du média. Nous,
bien
on collabore beaucoup avec le réseau des radios France Bleu, avec France Info quand il y a des événements, et on se rend compte que cette pédagogie où on explique ce qui se passe, ces évolutions, en donnant du détail de ce qui se passe et à tel endroit, les gens ont de plus en plus de crédibilité, de confiance dans tous ces événements et du coup poussent des réflexes qui sont plutôt positifs. On n'a pas gagné, il faut continuer, il faut continuer, mais on est vraiment sur la bonne voie.
Mais avec les 7 jours désormais, est-ce que vous changez vos méthodologies? Comment vous faites? Qu'est-ce qui change pour vous en fait?
On n'est pas sur une rupture en fait, parce que disons que les modèles en eux-mêmes ont commencé à regarder ce qui se passe. On commence à regarder ce qui se passe à 8 jours, à 9 jours, et on sait que la précision augmente lorsqu'on se rapproche de l'événement. Donc on est sur une amélioration continue et ça nous bouleverse pas. C'est pas une rupture dans les méthodologies. Par contre, ça conforte cette méthodologie de progressivité dans la mise en place des organisations pour faire face à ces événements.
Allez, une question de Fabien au standard du 01 45 24 7000. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir. Allez-y. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. Je suis exploitant dans les Hauts-de-France. Et en fait, par rapport à tout ce qui est prévision relatif à l'eau et aux pluies, je trouve que depuis 2016, qui est un peu l'année où ça a commencé à partir en sucette, on a que des incertitudes. On a pléthore de sites gratuits payants, on a des stations connectées, on a des modélisations à tour de bras et à heure par heure, 3 jours, 10 jours, ça change tout le temps et in fine, ce qui nous annonce ne tombe pas. On avait plus de précision, j'ai l'impression, il y a 20-30 ans à la radio, quand on a annoncé des choses. Maintenant, même à la télé, on va nous mettre des cartes avec un fond jaune, des nuages, 3-4 gouttes un peu partout, des orages qui clignotent. On sait pas concrètement. Et quand on tente d'avoir un peu quelque chose d'un peu précis, on va dire, ça se passe pas, ça se réalise pas. Alors, il y a des tendances orageuses à 3-4 kilomètres, on passe du quitte au double. Mais en réalité, l'exploitation des données en termes de précipitation, je trouve qu'elle est de plus en plus défaillante, de plus en plus vacillante, pour nous les professionnels. Hein.
On a bien compris, Sébastien Léas, c'est pour vous cette question, le prévisionniste à Météo France. C'est vrai que je peux imaginer qu'une carte aux 20 heures ne donne pas beaucoup d'infos à notre ami Fabien. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué, au fond, notamment les précipitations, la pluie ?
Alors sur les précipitations et sur la pluie, mais finalement ça va être assez valable aussi sur les températures. On va quand même avoir, enfin on a des indicateurs hein, qui nous montrent que si on est bon ou pas, on a un contrat d'objectif et de performance en tant qu'établissement public à Météo France qui nous impose d'avoir des bonnes prévisions avec un taux qui est suffisamment important. Et on respecte le contrat d'objectif et de performance avec une fiabilité qui est quand même assez importante. Hein. On peut regarder ce qui se passe, mais jusqu'à J3, on est à plus de 80% de bonnes prévisions, que ce soit sur les températures ou sur les précipitations. Donc effectivement, c'est sûr que avoir finalement prendre plus en plus d'informations, que ce soit sur des modèles numériques qui peuvent être en accès direct, mais qui sont pas forcément le modèle français, qui peuvent être le modèle européen, le modèle américain, allemand. Il y en a beaucoup au monde. C'est sûr que si on regarde comment réagissent ces différents modèles-là, d'un modèle à l'autre, ils vont pas forcément réagir de la même manière. Après, c'est nous, notre expertise humaine, qui va rentrer en ligne de compte et qui va choisir tel ou tel modèle ou atténuer un modèle qui pourrait être extrême parce qu'on connaît ses qualités et ses défauts. Donc effectivement, je pense que d'avoir trop d'informations, finalement, tue l'information. Effectivement, pour un professionnel...
Mais sauf quand on est agriculteur, voilà, et qu'on attend la pluie sur son champ à ce moment-là.
Exactement. Alors, il y a quand même des choses qui existent hein, pour les professionnels et pour les agriculteurs. C'est sûr que je pense qu'on va pas prendre les bulletins de la télé, ou même les bulletins qui sont formidables, hein, qui sont faits par Élodie Calac ou par moi-même sur l'antenne, pour avoir une vraie donnée sur l'exploitation d'un agriculteur. Donc effectivement, il faut aller chercher la bonne information et surtout ne pas avoir trop d'informations, ce qui finalement diluerait les choses. J'ai à peu près une théorie qui n'est que la mienne, hein, je précise quand même. Mais c'est qu'en fait, quand on cherche le temps qu'il va faire pour le week-end, on va continuer à chercher. Si on trouve un site internet qui nous donne un temps mitigé avec des averses, et ben on va continuer à chercher d'autres sites internet qui finalement nous donneront un temps ensoleillé et enfin on sera content et on se dira c'est bon, on va avoir du beau temps ce week-end.
C'est le sens de la question de Patrice qui est dans la Meuse, qui s'interroge effectivement sur la fiabilité des 7 jours, parce qu'il dit comment expliquer une disparité des prévisions selon les différents sites météo, justement, alors que les sources ne sont pas forcément différentes, ou parfois en tout cas elles le sont. Donc comment on peut expliquer cette grande disparité, Sébastien ?
Je pense que les sources sont effectivement différentes. On a beaucoup d'établissements ou d'officines qui font de la prévision météo, plus ou moins bien, comme Météo France, qui sont concurrents de Météo France. Hein, typiquement, on a beaucoup tendance à penser que Météo France est le seul et unique acteur de la météorologie au niveau national, mais c'est loin d'être vrai. Donc effectivement, on va pas forcément avoir les mêmes méthodes de prévision, on va pas forcément avoir les mêmes sources d'informations, même si beaucoup de données numériques sont disponibles, y compris le modèle français élaboré par Météo France. Après, il y a quand même une expertise humaine au sein de Météo France, alors que certains sites peuvent, par exemple, donner plutôt des données brutes de modèle, donc sans expertise et forcément sans atténuation d'une dérive dans un sens ou dans l'autre du modèle numérique.
Une dernière question, Sébastien, avant de retrouver Alix Romagnac aussi chez lui. Cette question sur l'appli France Inter. J'aimerais savoir comment ça se fait qu'on arrive désormais à prévoir réellement à 7 jours. Est-ce que vous avez de nouveaux satellites ? Est-ce que vous avez de nouvelles formules de calcul ? Est-ce que vous avez des calculateurs plus puissants ? Vous avez en partie répondu, Sébastien, tout à l'heure. Est-ce que c'est l'expérience empirique ? Est-ce que c'est un peu tout ça ? Qu'est-ce que vous avez comme nouveaux outils ? Moi, j'ai lu des choses sur des diffusomètres, par exemple.
Alors les diffusomètres, ça va être sur plutôt sur la visibilité notamment qui peut permettre d'être observé notamment sur les plateformes aéronautiques. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on a déjà on va partir de la base. On part nous sur des équations de l'atmosphère qui elles ne changent pas. Pour le coup, on reste sur les mêmes algorithmes en tout cas thermodynamique et météorologie de l'atmosphère. Donc ça ne change pas. En revanche, effectivement, on a des ordinateurs de plus en plus puissants. Là, on part sur un nouveau calculateur qui va multiplier par 5 notre pouvoir de calcul. On parle quand même de 20 millions de milliards de calculs à la seconde sur le nouveau supercalculateur de Météo France.
Mmh, c'est beaucoup.
C'est quand même beaucoup, à la virgule flottante. Moi, je suis pas capable d'en faire autant. Donc effectivement, on a ça. On va avoir des mailles, j'en parlais tout à l'heure, des mailles de plus en plus fines, jusqu'à 1,3 km, ce qui va nous donner encore plus de précision, ce qui est très important, notamment sur des départements à fort relief. Comme on parlait des épisodes Cévenol tout à l'heure, effectivement, entre les plaines de l'Hérault et les Cévennes, il y a un écart qui est très important. Mm-hmm. Donc voilà, donc tout ça va nous permettre d'avoir de plus en plus de fiabilité et de plus en plus de précision pour pouvoir après continuer à aller de plus en plus loin dans les échéances. Je pense quand même qu'on arrivera à un moment donné dans le futur à un plafond de verre, puisque notre souci principal, c'est quand même la modélisation de l'instant T0, c'est-à-dire le moment où on parle, qui nous sert de toute façon de base d'analyse pour faire évoluer la physique de l'atmosphère. Et comme ça, aujourd'hui, on est quand même lié aussi au réseau d'observation qu'on peut avoir en surface, et qu'on a quand même beaucoup de surfaces qui sont océaniques. On a beau avoir des bateaux et des bouées, ça ne nous permet pas forcément d'avoir l'état parfait de l'atmosphère à l'instant zéro.
Alex Romagnac, vous, en fonction justement de la précision que vous aurez, notamment de la part de Météo France, la précision, donc on a bien compris, de plus en plus précise, si je puis dire, qu'est-ce que vous attendez-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces moments-là? Est-ce que vous avez plus d'infos sur l'intensité? Est-ce qu'on parle des dégâts qui sont attendus? Est-ce qu'on parle donc des évacuations possibles dans certaines zones? Est-ce qu'on parle de vitesse du vent et donc des conséquences de vitesse du vent? C'est quoi l'étendue, en fait, Alex Romagnac, de ce que vous pouvez donner en fonction de la précision qu'on vous a offert?
Oui, tout à fait. Le travail, vous l'avez bien précisé, c'est transformer cette évolution de la précision, cette évolution de la prévision. Il faut parler aussi de l'observation, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé effectivement des prévisions, mais après, dans l'observation en tant que telle, aujourd'hui, nous, notamment sur les précipitations, mais c'est aussi sur la vitesse de vent, on va utiliser toutes les données qui proviennent soit du satellite, soit du radar, et qui elle aussi progresse de manière énorme, c'est-à-dire que aujourd'hui les radars de Météo France nous permettent de voir toutes les 5 minutes sur des carrés de 500 mètres sur 500 mètres les intensités de pluie. Mmh. Donc on sait exactement où sont positionnés les fameux orages stationnaires qui touchent la Méditerranée ou les Cévennes. Il y en a eu encore il y a pas très longtemps, il y a une dizaine de jours. Donc ça nous permet d'être plus précis pour savoir quelle est la commune qui va être impactée. On travaille avec Météo France aujourd'hui sur la fabrication des quantités de pluie sur l'ensemble du globe. On a un projet européen avec l'Agence spatiale européenne et c'est les collègues de Météo France de Lannion qui produisent un produit de précipitation où on sait toutes les demi-heures sur l'ensemble de la planète où sont les fortes pluies. En ce moment, on est en train de voir les fortes pluies qui sont sur le fleuve Yangtze en Chine. Il y a des précipitations énormes au-dessus des barrages des Trois Gorges. Et ça, on arrive à l'observer en temps réel. Les modèles le prévoient, le confirment. Et donc, toute cette chaîne, on va l'utiliser pour, en amont, préparer effectivement des actions qui sont très opérationnelles. C'est quel parking je vais évacuer, quelle école je vais mettre en sécurité, quel lotissement je vais faire monter à l'étage. Et plus on va être précis sur la prévision, sur l'observation, mais plus avec les citoyens, avec les maires, avec les sécurités civiles, avec les préfectures, tout cet partenariat et tous ces travaux en commun vont permettre d'anticiper les actions de sécurité. Poursuivre sur la météo est un sujet qui est très complexe parce que en fait il est dynamique. que ça soit dans l'espace ou dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut pas dire quel temps va faire dimanche. Mm-hmm. C'est dimanche à quelle heure et exactement à quel endroit. Mm-hmm. Ça va varier. Et en fait, je pense que c'est plus une problématique de transmission de l'information que de la prévision en tant que telle. Donc les gens ont le sentiment que la prévision n'est pas vraie, mais c'est pas le modèle, c'est en fait la retranscription qui en est faite. C'est compliqué sur une feuille de journal de lire quelque chose qui va varier toute la journée et de manière très différente dans l'espace.
Mais est-ce que ça veut dire que vous, de plus en plus, en fonction des informations qu'on vous donne et de leur fiabilité en cas d'événement important, vous êtes capable de ramener à l'école à évacuer, au lotissement à évacuer, à la rue qui va être inondée, jusqu'à quel point vous pouvez ramener à une précision aussi petite ?
C'est tout le travail qui se fait en amont. Tout à l'heure, j'ai évoqué le terme, c'est ce fameux plan communal de sauvegarde. Et aujourd'hui, on est en train de faire un gros travail parce que effectivement, il y a les élections municipales, il y a le deuxième tour dimanche. Donc, à la rentrée, on va avoir un certain nombre de maires qui viennent d'arriver aux manettes de la gestion d'une ville. Et à l'automne prochain, c'est des gens qui viennent de prendre leurs fonctions et qui auront la responsabilité d'avoir à prendre potentiellement des décisions, effectivement, d'évacuation d'écoles, d'évacuation de parking, d'évacuation de maisons de retraite. Et donc tout ça, il faut que ça soit préparé en avant. Et donc on fait tout ce travail à l'échelle de la commune pour identifier les zones inondables, les actions qui sont engagées, et de manière à ce que toutes les mairies se soient appropriées toutes ces actions, et de manière à ce que lorsqu'elles se passent, ça se passe dans le meilleur des façons et avec une progressivité, une continuité, en évitant les fausses alertes. Et c'est tout ce travail, c'est un travail de fourmi tous les jours de l'année pour que le jour J, tout le monde soit opérationnel dans ce genre de gestion de crise.
Sébastien Léas, une question pour vous un peu technique sur franceinter.fr, mais intéressante. J'ai vu dans un documentaire que la masse d'air froid sur l'Arctique bougeait avec le réchauffement climatique, ce qui engendre des variations de temps qui sont très rapides sur l'Europe. Est-ce que c'est en partie ça qui rend les prévisions difficiles ?
Non, enfin... C'est compliqué de... Alors, le réchauffement climatique va avoir un impact sur les prévisions. Maintenant, on arrive quand même à relativement bien modéliser, malgré tout, dans les grandes lignes, c'est-à-dire au niveau global, tout ce qui se passe, que ce soit au globe ou à l'équateur. Donc, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément de mouvement plus rapide ou pas. On a des situations, surtout en Europe de l'Ouest, qui sont plutôt bien identifiées. Et les transitions ne se font pas forcément plus rapidement d'un régime de temps à un autre régime.
Mais est-ce qu'il y a des types de phénomènes météo qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer que d'autres et beaucoup plus difficiles aussi d'évaluer dans leur précision ? Est-ce que c'est au fond plus facile, pardon de cette question totalement béotienne Sébastien, mais est-ce que c'est plus facile de dire quelque part qu'il va y avoir un orage, une averse vraiment diluvienne et qu'il faut faire donc attention au risque de crue, etc. Est-ce que c'est plus facile d'annoncer des vents violents parce qu'on a au moins une précision, ou est-ce qu'au contraire, quand on parle de vent, on sait qu'il suffit de taper à un moment sur une partie de la côte, par exemple, pour que le vent se baisse? Est-ce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles dans la précision que d'autres?
Oui, clairement, les orages sont extrêmement difficiles à prévoir sur leur trajectoire. Ils ont un peu leur propre vie, chaque cellule orageuse a un petit peu sa propre vie. L'analogie pour faire de la prévision d'orage, ça va être d'essayer de, dans une casserole d'eau bouillante, de trouver la trajectoire de chaque bulle. Donc du coup, c'est extrêmement délicat. Chaque cellule, même s'il y a un flux général qui peut emporter les orages plutôt du sud-ouest vers le nord-est, le relief fait que ça va engendrer certaines choses au niveau plus local, ça peut rester accroché, ça peut rester bloqué. Effectivement, la prévision orageuse est extrêmement délicate, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois les gens ont l'impression qu'en fait on met une vigilance orange sur des orages, mais il n'y a pas eu d'orage chez eux. On peut prendre le cas de plein de cellules orageuses qui ont donné des inondations, par exemple, sur le nord-est parisien, alors que plutôt vers le sud, vers le parc Montsouris, où en plus on a notre station d'observation, il est tombé que 2 gouttes. Enfin, c'est extrêmement délicat. La taille de la cellule orageuse fait que effectivement, on se retrouve dans des situations où c'est beaucoup plus compliqué que de prévoir un épisode de fort mistral, par exemple.
Mais Alix Roumaniac, est-ce qu'on est devenu frileux aussi, au fond, et ça vous intéresse, vous, derrière? Parce que s'il faut prévoir un certain nombre de choses, même jusqu'aux évacuations, est-ce qu'on est devenu plus frileux? Est-ce qu'on met des vigilances en couleur vive plus facilement parce qu'au moins on se couvre? Est-ce que vous avez l'impression qu'on on a ce genre de travers?
Alors, on est dans une société qui supporte de moins en moins l'incertitude et le risque,
et, oui.
Et donc qui rend beaucoup plus d'exigence à ce travail amont. Par contre, sur le plan factuel, quand nous on voit les sorties des vigilances, il n'y a pas de stratégie de se couvrir. S'il y a des paramètres, les collègues prévisionnistes Météo France, quand ils émettent une vigilance, c'est après une analyse très fine sur le plan technique, etc. Donc il n'y a pas une couverture. Souvent, effectivement, les gens disent ah tiens, c'est encore, on a ouvert le parapluie pour parler de façon très. Ouais, mais en fait c'est pas le cas et c'est ce qu'expliquait. Sébastien, notamment sur les orages, comme c'est très localisé, nous on voit sur ces fameux épisodes Sevenol, à 5 km près, on peut avoir des cumuls d'eau de 300-400 mm, et puis 5 km un peu plus à l'est, zéro. Donc c'est très difficile pour la personne qui n'a pas vu tomber ces trombes d'eau, comprendre pourquoi il y avait une vigilance aussi importante, et c'est ça qui est important à expliquer, à faire de la pédagogie justement pour comprendre ces variations et ces différences.
Sébastien Léas, nouvelle question sur l'appli de France Inter. Je vous la lis comme elle vient. Est-ce que Météo France a introduit de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, notamment du deep learning, dans les algos de calcul de ses prévisions?
Peut-être dans ses prévisionnistes, on a nos modèles numériques qui réagissent. Après, nous, on les connaît, à force de travailler avec, parce que certains prévisionnistes sont là depuis plus d'une vingtaine d'années. Mm-hmm. Donc on connaît les avantages, on sait aussi que parfois il y a des adaptations qui sont faites, hein, que ce soit en statistique ou en climatologie, pour justement que ces modèles marchent mieux et fonctionnent mieux.
Mais pourquoi pas l'IA, non ? Pourquoi pas l'intelligence artificielle ? Enfin, il doit y avoir des choses qui sont testées, qui sont essayées aujourd'hui pour encore une fois être encore plus précis, encore plus pointu.
Oui, alors on devrait passer sur des prévisions automatisées, mais c'est pas forcément très simple à mettre en place d'une part, et moi en tant que prévisionniste humain, je pense que
ne vous inquiétez pas, Sébastien.
Je pense que le problème peut être peut par contre aller vers des dérives sur du plus long terme en termes de prévision. Quand je parle du plus long terme, je parle bien sûr d'échéance, au-delà de J2, J3 ou J4. Mm-hmm. Effectivement, d'avoir une expertise humaine au bout me paraît toujours assez nécessaire, même si parfois l'humain reste humain et peut faire des erreurs, la machine aussi, et d'utiliser les deux, je pense que c'est le meilleur moyen de faire des bonnes prévisions. Je vais aussi revenir vite fait
rapidement,
une petite entorse.
Allez-y.
Sur l'impression de taux de fausse alarme ou de non détection. On est
ou plutôt
quand même,
d'ouvrir le parapluie, comme disait Alex Romagnac, effectivement.
Oui. Alors on a peut-être cette impression-là, puisque finalement sur certaines années, on a des épisodes qui se multiplient. Si on prend l'année 2014, on a quand même eu 11 ou 12 épisodes méditerranéens qui ont touché toutes les régions, hein, du Languedoc-Roussillon à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi la Corse, qui ont effectivement multiplié les jours de vigilance. Faut aussi se rendre compte que par rapport au début de la vigilance, on était parti sur 5 critères seulement, et qu'aujourd'hui on en a 9, plus le risque cyclonique dans les Outre-mer. Donc effectivement, il y a peut-être cette impression de multiplication d'alerte entre guillemets pour rien, mais en termes de taux de non-détection, c'est-à-dire d'épisodes qui nous échappent, on est quand même à moins de 2% des épisodes, et en taux de fausse alarme, on est aux alentours de 10%. Donc ça veut dire que 9 vigilances sur 10 sont justifiées.
Alex Romagnac, j'ai entendu que vous vouliez réagir. On parlait d'intelligence artificielle, c'était à ce moment-là?
Oui, tout à fait. C'était effectivement sur la prévision, Sébastien l'a précisé. Mais on travaille avec Météo France, je vous dis tout à l'heure, par exemple, sur l'élaboration de cette fameuse estimation des pluies sur l'ensemble du globe. Et très très pratiquement, on a intégré un algorithme auto-apprenant pour arriver à calibrer la façon dont on estime la pluie par satellite par rapport à ce qu'on peut estimer par radar. Donc là, aujourd'hui, on est dans le travail d'intégration, effectivement, d'IA sur certains volets, mais je suis complètement En phase, en disant, l'IA ne doit pas, ne se substitue pas à l'expertise humaine, qui est toujours nécessaire. Par contre, si, comme on est sur des gros traitements de données, si on peut faire à la machine tout un traitement et donner à l'expertise humaine quelque chose qui est déjà un peu plus mieux digéré, je pense que c'est dans l'avenir quelque chose qui va nous permettre de encore faire des progrès sur tous ces domaines.
Il nous reste une petite minute. Je vais vous poser la question à tous les deux, Sébastien Léa. C'est une question de Sarah de Paris 9 sur franceinter.fr qui dit: qu'est-ce qui peut encore faire progresser les prévisions météo?
La météo, c'est une science extrêmement jeune, on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais la météorologie moderne, c'est une science qui a moins de 200 ans. Donc du coup, la recherche va nous faire gagner du temps et surtout de l'anticipation sur les phénomènes. On a effectivement aussi toute la technologie avec des ordinateurs plus puissants, des satellites qui sont plus performants. Donc effectivement, on a encore plein d'axes d'amélioration pour pouvoir aller encore vers de la plus grande précision et de la plus grande anticipation.
Alix Roumaniac, je vous pose la question en fait un peu à l'envers. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui qu'il faudrait qu'on sache faire et qui vous aiderait, vous, d'ailleurs ? Ou en tout cas qu'on ne sait pas faire assez bien.
Oui, en fait, l'idée, c'est pour être dans le continuum, puisque on a parlé d'amélioration de prévision météo, ouais. Et vous l'avez évoqué plusieurs fois dans l'émission, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire des actions à mener, et la piste de continuer à progresser dans la pédagogie, dans la culture du risque et dans la bonne compréhension et appropriation par l'ensemble des citoyens et des acteurs des bonnes attitudes à avoir, de connaître les limites, mais d'accepter, de s'approprier cette incertitude avec cet objectif, la culture du risque, c'est ça sur lequel il va falloir continuer à travailler, la pédagogie et la culture du risque.
Merci beaucoup, merci à tous les deux bien sûr, et merci pour vos nombreuses questions. Portez-vous bien.